Marcel Schwab, Les portes de l'opium. O jazz sceptre and mighty opium. Thomas de Quincey. Je fus toujours l'ennemi d'une vie réglée comme celle de tous les autres. La monotonie persistante des actions répétées et habituelles m'exaspérait. Mon père, m'ayant laissé la disposition d'une énorme fortune, je n'eus point le désir de vivre en élégant. Les hôtels somptueux ni les attelages de luxe ne m'attiraient, non plus les chasses forcenées ou la vie indolente des villes d'Ouao. Le jeu ne présentait que deux alternatives à mon esprit agité. C'était trop peu. Nous étions arrivés dans un temps extraordinaire où les romanciers nous avaient montré toutes les faces de la vie humaine et tous les dessous des pensées. On était lassés de bien des sentiments avant de les avoir éprouvés. Plusieurs se laissaient attirer vers un gouffre d'ombres mystiques et inconnues. D'autres étaient possédés par la passion de l'étrange, par la recherche quintessentiée de sensations nouvelles. D'autres, enfin, se fondaient dans une large pitié qui s'étendait sur toute chose. Ces poursuites avaient créé en moi une curiosité extravagante de la vie humaine. J'éprouvais le désir douloureux de m'aliéner à moi-même, d'être souvent soldat, pauvre ou marchand, ou la femme que je voyais passer, secouant ses jupes, ou la jeune fille, tendrement voilée, qui entrait chez un pâtissier. Elle relevait son voile à demi, mordait dans un gâteau, puis, versant de l'eau dans un verre, elle restait la tête penchée. Ainsi, il est facile de comprendre pourquoi je fus hanté par la curiosité d'une porte. Il y avait dans un quartier éloigné un haut mur gris, percé d'yeux, grillé à de grandes hauteurs, avec de fausses fenêtres pâlement dessinées par places. Et au bas de ce mur, dans une position singulièrement inégale, sans qu'on puisse savoir ni pourquoi ni comment, loin des trous grillés, on voyait une porte basse, en ogive, fermée d'une serrure à long serpent de fer et croisée de traverses vertes. La serrure était rouillée, les gonds étaient rouillés. Dans la vieille rue abandonnée, les orties et les ravenelles avaient jailli par bouquets sous le seuil, et des écailles blanchâtres se soulevaient sur la porte comme sur la peau d'un lépreux. Derrière, y avait-il des êtres vivants? Et quelle insolite existence devait-il mener s'il passait les journées à l'ombre de ce grand mur gris, cloîtré du monde par la petite porte basse qu'on ne voyait jamais ouverte? D'heure en heure, mes promenades inactives me ramenaient dans cette rue silencieuse, et j'interrogeais la porte comme un problème. Un soir, que j'errais dans la foule, cherchant de curieuses figures, je remarquai un vieux petit homme qui tressautait en marchant. Il avait un foulard rouge pendant de sa poche et il frappait le pavé d'une canne tordue en ricanant. Sous le gaz, sa figure semblait barrée d'ombre et les yeux y étincelaient de lueurs si verdâtres que je fus invinciblement ramené à l'idée de la porte. Alors dans l'instant, je devins sûr qu'il y avait entre lui et elle quelques relations. Je suivis cet homme. Je ne puis pas dire qu'il ait rien fait pour cela, mais il m'était impossible d'agir autrement, et quand il parut au bout de la rue abandonnée où était la porte, je fus illuminé de ce pressentiment soudain qui vous fait saisir, comme dans un éclair du temps, qu'on sait ce qui va se passer. Il frappa deux ou trois coups. La porte roula sur ses gonds rouillés sans grincer. Je n'hésitai pas, je m'élançai. Mais je trébuchais sur les jambes d'un mendiant que je n'avais pas vu et qui s'était assis le long du mur. Il avait sur les genoux une écuelle de terre et une cuillère d'étain à la main. Levant son bâton, il me maudit d'une voix rauque lorsque la porte se referma silencieusement sur moi. J'étais dans un immense jardin sombre, où les herbes folles et les plantes sauvages poussaient à hauteur des genoux. La terre était détrempée comme par des pluies continuelles. Elle paraissait de glaise tant elle s'attachait aux pas. Tâtonnant dans l'obscurité vers le bruit mat du vieux qui s'avançait, je vis bientôt poindre une éclaircie. Il y avait des arbres où pendaient des lanternes de papier faiblement éclairées, donnant une lumière roussâtre, diffuse, et le silence était moins profond car le vent semblait respirer lentement dans les feuillages. En approchant, je vis que ces lanternes étaient peintes de fleurs orientales et qu'elles dissimulaient en l'air les mots maison d'opium. Devant moi se dressait une maison blanche, carrée avec des ouvertures étroites et longues, d'où sortait une lente musique grinçante de cordes, coupée de battements et une mélopée de voix rêveuses. Le vieux se tenait sur le seuil et, agitant gracieusement son foulard rouge, il m'invitait du geste à entrer. J'aperçus dans le couloir une mince créature jaune, vêtue d'une robe flottante, vieille aussi, avec la tête branlante et la bouche édentée. Elle me fit entrer dans une pièce oblongue, tendue de soie blanche. Sur les tentures, des raies noires s'élevaient verticalement, croissant jusqu'au plafond. Puis il y eut devant moi un jeu de tables de laque, rentrant les unes dans les autres, avec une lampe de cuivre rouge où une fine flamme filait, un pot de porcelaine plein d'une pâte grisâtre, des épingles, trois ou quatre pipes à tiges de bambou, un fourneau d'argent. La vieille femme jaune roula une boulette, la fit fondre à la flamme autour d'une épingle, et la plantant avec précaution dans le fourneau de la pipe, elle y tassa plusieurs rondelles. Alors, sans réflexion, j'allumai et je tirai deux bouffées d'une fumée âcre et vénéneuse qui me rendit fou. Car je vis passer devant mes yeux aussitôt, bien qu'il n'y eût aucune transition, l'image de la porte et les figures bizarres du vieux homme au foulard rouge, du mendiant à l'écuelle et de la vieille à la robe jaune. Les raies noires se mirent à grandir en sens inverse vers le plafond et à diminuer vers le plancher, dans une sorte de gamme chromatique de dimensions qui me semblait entendre résonner dans mes oreilles. Je perçus le bruit de la mer et des vagues qui se brisent, chassant l'air des grottes rocheuses par des coups sourds. La chambre changea de direction sans que j'eusse l'impression d'un mouvement. Il me parut que mes pieds avaient pris la place de ma tête et que j'étais couché sur le plafond. Enfin, il y eut en moi un anéantissement complet de mon activité. Je désirais rester ainsi éternellement et continuer à éprouver. C'est alors qu'un panneau glissa dans la chambre, par où entra une jeune femme comme je n'en avais jamais vue. Elle avait la figure frottée de safran et les yeux attirés vers les tempes. Ses cils étaient gommés d'or et les conques de ses oreilles délicatement relevées d'une ligne rose. Ses dents, d'un noir d'ébène, étaient constellées de petits diamants fulgurants et ses lèvres étaient complètement bleuies. Ainsi parée, avec sa peau épicée et peinte, elle avait l'aspect et l'odeur des statues d'ivoire de Chine, curieusement ajourées et rehaussées de couleurs bariolées. Elle était nue jusqu'à la ceinture, ses seins pendaient comme deux poires et une étoffe brune guillochée d'or flottait sur ses pieds. Le désir d'étrangeté qui me tenait devint alors si violent que je me précipitai vers cette femme peinte en l'implorant. Chacune des couleurs de son costume et de sa peau semblait à l'hyperesthésie de mes sens un son délicieux dans l'harmonie qui m'enveloppait. Chacun de ses gestes et les poses de ses mains étaient comme des parties rythmées d'une danse infiniment variée dont mon intuition saisissait l'ensemble. Et je lui disais en la suppliant, « Fille de Lébanon, si tu as vu à moi les profondeurs mystérieuses de l'opium, reste, reste, mon cœur te veut. Jusqu'à la fin de mes jours, je me nourrirai de l'imprégnable drogue qui te fait paraître à mes yeux. L'opium est plus puissant que l'ambroisie, puisqu'il donne l'immortalité du rêve, non plus la misérable éternité de la vie. Plus subtil que le nectar, puisqu'il crée des êtres si étrangement brillants. Plus juste que tous les dieux, puisqu'il réunit ceux qui sont faits pour s'aimer. Mais si tu es femme née de chair humaine, tu es mienne, pour toujours. Car je veux donner tout ce qui est à moi pour te posséder. » Elle fixa sur moi ses yeux miroitants entre les cils d'or, s'approcha lentement et s'assit dans une pose douce qui faisait battre mon cœur. « Est-il vrai ? » murmura-t-elle. « Donnerais-tu ta fortune pour m'avoir ?» Elle secoua la tête avec incrédulité. Je vous dis que la folie me tenait. Je saisis mon carnet de chèques, je le signai en blanc et je le lançai dans la chambre. Il rebondit sur le parquet. « Hélas, dit-elle, aurais-tu le courage d'être mendiant pour être à moi ? Il me semble que je t'aimerais mieux. D'y veux-tu ? » Elle me déshabillait légèrement. Alors la vieille femme jaune amena le mendiant qui était devant la porte. Il entra en hurlant et eut mes vêtements d'apparat avec lesquels il s'enfuit, et moi, j'eus son manteau rapiécé, son feutre troué, son écuelle, sa cuillère et sa sébile. Et quand je fus ainsi accoutré, « Va !» dit-elle, et elle frappa dans ses mains. Les lampes s'éteignirent, les panneaux tombèrent, la fille de l'opium s'évanouit. À la clarté confuse des murs, je vis le vieux homme au foulard rouge, la vieille à la robe jaune, le hideux mendiant vêtu de mes habits, qui se jetèrent sur moi et me poussèrent vers un couloir obscur. Je passai, je fus porté à travers des tunnels gluants entre des murailles visqueuses. Un temps inappréciable s'écoula. Je perdis la notion des heures, me sentant toujours entraîné. Tout à coup, la lumière blanche me saisit tout entier. Mes yeux tremblèrent dans leurs orbites, mes paupières clignèrent au soleil. Je me trouvais assis devant une petite porte basse en ogive, fermée d'une serrure à long serpent de fer et croisée de traverses vertes. Une porte rigoureusement semblable à la porte mystérieuse, mais percée dans un immense mur blanchi à la chaux. La rase campagne s'étendait devant moi. L'herbe était brûlée, le ciel d'un bleu opaque. Tout m'était inconnu jusqu'au tas de crottins qui gisaient près de moi. Et j'étais là, perdu, pauvre comme Job, nu comme Job, derrière la seconde porte. Je la secouais, je l'ébranlais, elle est fermée à jamais. Ma cuillère d'étain claque contre ma sébile. Oh oui, l'opium est plus puissant que l'ambroisie, donnant l'éternité d'une vie misérable. Plus subtil que le nectar, mordant le cœur de peine si cruelle. Plus juste que les dieux, punissant les curieux qui ont voulu violer les secrets de l'au-delà. Oh, très juste, subtil et puissant opium. Hélas, hélas, ma fortune est détruite. Oh, oh, mon argent est perdu. »